need. Hey, hey, said I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times coming and I reap what I done sold. Well, let me tell you something, all that glitters ain't gold. It's been long, old trouble, long, old trucksome road. And I'm looking for somebody, come and help me carry this load. Said I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need a dollar, 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 that's what I need. Said I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is crumbling down. I'm sorry, but I won't be needing your help no more. I said, please, Mr. Bossman, I need this job more than you know. But he gave me my left paycheck and he sent me on out the door. Hey, hey, said I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, said I need.
Il est 4h en temps universel, 6h ici à Paris. Vous écoutez Radio France Internationale. Une nouvelle édition du journal présentée par Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Et nous sommes en forêt dès le début de cette édition.
Et celle de Fontainebleau, près de Paris, une forêt en flammes, même si les feux sont maintenant fixés, mais 2000 hectares ont été parcourus et des habitants ont dû quitter leur logement à la hâte. Vous les entendrez dans un instant. On va revenir ensuite sur la première demi-finale du mondial masculin de football. C'était hier soir, Espagne-France. Et ce sont les Espagnols qui ont été les plus forts. Victoire 2-0. Immense déception, forcément, des supporters français qui faisaient pourtant favoris. Figure de favori dans cette compétition. À la une également, la plupart des contrôles routiers effectués par l'ICE suspendus aux États-Unis après la mort de deux automobilistes en l'espace de quelques jours. Et puis on va vous parler de cette visite qui approche, ce sera vendredi, l'ex-président sénégalais Macky Sall de retour à Dakar où il doit rencontrer celui qui lui a succédé, Massirou Diomaye-Faye. Fixés, mais pas éteints. Les autorités françaises insistent sur la nuance. Oui, les feux qui se sont déclenchés ce week-end dans la forêt de Fontainebleau, près de Paris, sont bel et bien fixés, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans un même périmètre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de flammes. Alors les pompiers vont encore devoir lutter plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 2000 hectares de forêt déjà parcourus sous l'œil impuissant des habitants des villages alentours, pas vraiment habitués à de tels sinistres dans la partie nord de la France. Reportage à Achères-la-Forêt, l'une des trois communes partiellement évacuées par les autorités. Baptiste Coulon.
Quand il parle de la forêt de Fontainebleau, Olivier convoque immédiatement ses souvenirs d'enfance.
Moi, je vais dans la forêt de Fontainebleau depuis que j'ai 10 ans. J'adore cet endroit, c'est très très beau. Les rochers sont uniques et c'est très fort pour moi.
La voir brûler est un crève-cœur, dit-il. Et même si l'incendie a perdu en intensité, il redoute désormais un double impact environnemental d'abord.
Il y a des endroits qui vont être complètement désertifiés pendant plusieurs années.
Et économique pour la forêt la plus fréquentée de France, repère de tous les amoureux d'escalade.
Les gens viennent de toute l'Europe, voire même des États-Unis, pour venir grimper ici, parce que c'est le centre mondial de ce genre de choses. S'il n'y a plus d'arbres, il y a des endroits où ils iront plus escalader, bien évidemment.
L'impact sur la forêt, l'impact psychologique, ajoute Carole, qui appréhende les prochains jours, pour tous ceux qui, comme elle, ont vécu l'incendie au plus près.
Je pense qu'il y aura là toutes les retombées, le post-trauma, quoi, où on va vraiment réaliser ce que l'on a vécu.
Il y aura un besoin de se retrouver entre habitants ?
Oui, je pense. De pouvoir reparler de ce qui s'est passé, ça peut aider certaines personnes.
Un soutien moral nécessaire pour affronter une prise de conscience collective. Désormais, avec le réchauffement climatique, le nord de la France n'est plus épargné par les incendies d'ampleur.
Et quatre gardes à vue, toujours en cours, celle d'un pompier volontaire à Fontainebleau notamment. Il a reconnu avoir mis le feu à des brindilles avec un briquet de l'essence. Un autre parle d'un feu accidentel en jetant une cigarette dans la nature, un geste qui, en plus d'être écologiquement très critiquable, est particulièrement dangereux, surtout en période de canicule, et c'est le cas en ce moment en France, même si ça commence à aller mieux. 26 départements encore en alerte rouge, mais tous devraient passer à l'orange dès demain matin. La France n'est pas la seule à suffoquer. L'Espagne a, elle, connu son début d'été le plus chaud depuis les premiers relevés depuis de 1961. C'est ce que dit l'Agence météorologique nationale. Il fait aussi très chaud, trop chaud aux États-Unis. Ça a commencé dans l'ouest du pays et c'est en train de s'étendre dans le nord-est où l'on attend des températures frôlant les 40 degrés à partir d'aujourd'hui. Ce sera un petit peu plus doux. Tout à l'heure à Atlanta, une trentaine de degrés et même un peu de pluie. Voilà ce qui attend les Argentins et les Anglais qui s'affronteront en demi-finale de la Coupe du Monde masculine de football. Et le vainqueur de ce match fera face pour le titre à l'Espagne qui s'est qualifiée hier soir en battant une équipe de France qui n'a tout simplement pas fait le poids. Un pénalty à la 22e minute, puis le but pour enfoncer le clou dans la deuxième période. L'Aurora s'est imposée 2-0. Immense déception pour les Bleus qui étaient parmi les grandissimes favoris de cette compétition. La dernière de l'entraîneur Didier Deschamps, lui aussi déçu et qui critique plus ou moins ouvertement l'arbitrage du match assuré par le Salvadorien Ivan Barton. Écoutez Didier Deschamps interrogé par nos confrères de M6.
Il y a beaucoup de déceptions. Les joueurs sont anéantis parce que voilà, on avait beaucoup d'ambition, même s'il faut être aussi logique et reconnaître qu'aujourd'hui on a été un ton en dessous sur le plan technique face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet. Plus voilà, mais c'est d'abord de notre faute. Je veux pas accuser qui que ce soit. Après, je pose une question et je vais pas y répondre. Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? On en a eu quelques-uns, voilà, mais je vais pas y répondre. Et c'est pas ça, et c'est pas parce qu'on a perdu aujourd'hui que je dis ça. Il y a eu pas mal de situations. Souvent en défaveur aussi, mais faut l'accepter, c'est le très haut niveau, même si ça fait mal.
Et ça fait mal aussi aux supporters français, ceux qui étaient à Dallas où avait lieu la rencontre, vous en entendrez plusieurs juste après ce journal, et puis ceux qui étaient dans les bars en France et qui n'ont pas traîné pour rentrer chez eux juste après le coup de sifflet final. C'est le cas de Robin, la vingtaine. Notre reporter Jeanne Danglejean l'a croisé sur le chemin du retour dans les rues de Paris.
On n'a pas été à la hauteur, hein. Honnêtement, on n'a même pas vibré, il n'y a eu rien du tout. Je pense que direct, ça s'est senti qu'ils étaient meilleurs que nous.
À partir de quand vous avez senti que c'était la fin du match?
Honnêtement, assez vite, hein. À partir du 2-0, après, il y a eu la pause fraîcheur, je crois, il a fait 2-3 changements. On a vu Cherki qui était rentré, on y a cru un petit peu, et ensuite c'était fini. Hein. C'est dommage parce que dans tous les cas, quand on regarde les adversaires, honnêtement, il y a eu le Paraguay, la Suède, où c'était des adversaires plutôt faciles. Et là, pour une fois, c'était le premier adversaire où on se disait, on va enfin battre une grande nation, on va rentrer dans la Coupe du Monde, on va faire peur à tout le monde. Et finalement, pas du tout, donc c'est dommage, c'est triste. C'est triste. Mais bon, c'est pas grave, il reste encore un match. Hein. Peut-être qu'on va battre l'Argentine en petite finale, et comme ça, au moins, le tournoi, il sera pas mal, il sera mieux.
Car ils étaient nombreux à espérer un remake de la finale d'il y a 4 ans, remportée par les Argentins. Ce ne sera pas en finale cette fois, mais peut-être, comme le disait ce supporter, en petite finale, celle pour la 3e place. Pour ça, il faudrait que l'Argentine perde contre l'Angleterre ce soir, 2e demi. Coup d'envoi 19h en temps universel, ce sera à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes africaines. Et peut-être que Claude Leroy voudra bien nous donner son pronostic. Le nouveau sélectionneur du Congo sera le grand invité de la rédaction tout à l'heure avec Arnaud Pontus. Rendez-vous après le journal de 6h. Le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à la fin des actes d'agression américains et des fermetures d'autres voies d'exploration de pétrole et de gaz pourraient suivre, déclaration cette nuit des gardiens de la révolution iranienne. Les États-Unis de leur côté ont rétabli leur blocus des ports de la République islamique. 4e nuit consécutive de frappes américaines dans plusieurs villes en Iran, notamment à Bandar Abbas. Les Iraniens, eux, ont répliqué en s'en prenant une nouvelle fois à des bases militaires américaines dans le Golfe, notamment au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn. À noter que Washington a aussi annoncé renforcer ses sanctions contre le secteur pétrolier iranien. Une cinquantaine de personnes et d'entités supplémentaires sont concernées. Les États-Unis toujours, où plusieurs médias l'annoncent, la plupart des contrôles routiers effectués par l'ICE sont suspendus. Ça fait suite à la mort de 2 personnes en moins d'une semaine lors d'opérations de cette police de l'immigration. Au Texas, d'abord, un ressortissant de 52 ans tué par balle au volant de sa voiture alors qu'il se rendait au travail. Et puis dans le Maine, lundi, un Colombien de 26 ans, cette fois lui aussi tué à bord de son véhicule. Correspondance aux États-Unis d'Edouard Maille.
Donald Trump a ordonné aux agents de l'immigration de mettre sur pause la plupart des contrôles routiers. Selon des informations publié mardi par des médias américains, car les deux personnes tuées cette semaine étaient en voiture. Mais après la mort de l'homme de 26 ans dans le Maine, la sénatrice républicaine de l'État, Susan Collins, une critique de Donald Trump, a demandé au secrétaire du département de la sécurité intérieure de mettre fin à ces contrôles routiers non urgents et a dit regretter l'absence de caméras au corps sur l'agent qui a tiré. Aux côtés d'autres démocrates, elle demande une enquête indépendante pour établir les faits. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche lors d'opérations d'agents de l'immigration, plus d'une vingtaine de personnes se sont fait tirer dessus, avec 6 morts, dont 3 citoyens américains, selon un décompte du New York Times. Et les victimes étaient souvent en voiture. Et ce mardi, un homme de 28 ans est mort, percuté par un véhicule alors qu'il fuyait des agents de l'immigration. Mais les circonstances exactes sont encore floues. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Le chef du gouvernement français, Sébastien Lecornu, et plusieurs de ses ministres attendus au Maroc, aujourd'hui et demain, à Rabat. Le Premier ministre doit notamment rencontrer son homologue Aziz Hanouch pour une rencontre qualifiée de haut niveau entre les deux gouvernements, la première depuis 2019. On en parlera dans la Fabrique du Monde avec Guillaume Nodin. Ce sera juste après le journal de 8h, heure de Paris. Autre visite annoncée, mais elle, ce sera vendredi. Celle de Macky Sall, de retour à Dakar. C'est une première depuis que l'ex-président sénégalais a quitté le pouvoir et le pays il y a 2 ans. Il ne doit rester que quelques heures dans la capitale où il rencontrera son successeur, Bassirou Diomaye Faye. Macky Sall espère obtenir le soutien du Sénégal pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Les explications depuis Dakar de Léa Lisa Vesterhoff.
La visite durera 3 heures à peine, avec une arrivée prévue à 15h et un départ à 18h le même jour. Mais plus de 2 ans après avoir quitté le pouvoir et avoir tenté de reporter la présidentielle, le retour de Macky Sall au Sénégal est un symbole fort. L'objectif, obtenir le soutien officiel de son pays à la candidature de l'ancien président à la tête de l'ONU, alors que le Sénégal s'est jusque-là montré silencieux, voire réticent sur la question. Dans l'entourage du parti de Macky Sall, on veut croire que cette visite est une formalité et le soutien de Diomaye acquis si l'ancien président fait le déplacement à Dakar. Et ce, même si fin mars, Macky Sall avait échoué à obtenir le soutien de l'Union africaine à sa candidature à la tête de l'ONU, car 20 pays, dont le Sénégal, y avaient opposé leur veto. Hier, la présidence du Sénégal, tout comme le PASTEF au pouvoir, ont gardé le silence sur cette visite vendredi. Mais sur les réseaux sociaux, des militants s'offusquent déjà de ce possible revirement diplomatique. Derrière les grands discours des responsables PASTEF, les appels à la justice et les accusations de crimes se cachaient donc une indigeste soupe populiste, écrit l'un d'entre eux. Une référence à la répression de militants de l'opposition qui ont fait au moins 65 morts entre 2021 et 2023 sous la présidence de Macky Sall. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Le courant revient à Cuba, petit à petit, rétabli après une nouvelle panne générale, la 3e en moins de 10 jours et la 5e depuis le début de l'année. Le réseau national souffre à cause de la vétusté de ses infrastructures, mais aussi à cause de la pénurie de carburant, alors que les États-Unis imposent un blocus à l'île, empêchant les livraisons. Il était l'un des membres les plus éminents du bureau politique du Parti communiste chinois. Ma Xinjiang est exclu de ce bureau politique et il n'est pas le seul d'ailleurs. C'est déjà la 3e purge anti-corruption au sein de l'instance. Une enquête a été ouverte en avril et l'homme a été accusé d'avoir accepté des pots de vin et des faveurs sexuelles, Nicolas Roca.
Ma Xinjiang a favorisé une corruption familiale à grande échelle, selon les accusations publiées par les médias d'État, citant l'organe anticorruption du parti. La liste des méfaits commis par l'ancien secrétaire général de la province du Xinjiang serait conséquente. Il aurait accepté des cadeaux, de l'argent, aidé des membres de sa famille à acheter des maisons en dessous du prix du marché, mais également bénéficié de faveurs sexuelles. Une descente en enfer pour l'homme de 67 ans qui avait été surnommé le jeune maréchal de l'industrie aérospatiale par le quotidien du peuple, journal du parti. Ma Xinjiang avait notamment gravi les échelons grâce à son rôle dans le programme spatial chinois avant d'être nommé en 2021 au Xinjiang. La province connue pour la répression violente de la minorité musulmane des Ouïghours avait été secouée par des manifestations en 2022 en pleine pandémie. L'exclusion de Ma Xinjiang est un nouveau rappel que sous Xi Jinping, le bureau politique, organe autrefois quasi intouchable au sein du parti, n'offre plus de protection à ses membres.
Précision de Nicolas Roca. Un petit mot de cyclisme. 11e étape du Tour de France ce mercredi. Un peu plus de 160 km entre Vichy et Nevers. Hier, c'est le Slovène Tadej Pogacar qui s'est imposé en solitaire au Lioran, confortant son avance en tête du classement général, plus de 3 minutes devant le Danois Jonas Vingegaard. Il est 6h12 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans une petite vingtaine de minutes. D'ici là, on sera en Turquie. On va voir ce qui a changé depuis la tentative de coup d'État d'il y a 10 ans tout juste. Le réalisateur britannique Christopher Nolan sera notre invité culture, lui qui signe l'Odyssée en salle aujourd'hui en France. Et puis le syndrome de la femme forte entre mythe et souffrance, ce sera dans notre conseil santé du jour. Mais d'abord, on en parlait dans le journal, c'est donc l'Espagne qui fonce en finale du mondial masculin de football. La France s'arrête là, impuissante hier en demi face à la Roja. Un pénalty espagnol en première mi-temps, puis le deuxième but et la concrétisation du calvaire après la pause. 2-0 au coup de sifflet final. Pas de nouveau titre pour les Bleus et leur sélectionneur, Dédé, Didier Deschamps, dont c'était la dernière Coupe du Monde à la tête de l'équipe. Alors évidemment, immense déception pour les supporters français, surtout pour ceux qui avaient fait le déplacement jusqu'aux États-Unis pour voir le match. Petit florilège recueilli juste après la rencontre à Dallas par Vincent Souriau.
Un petit peu abattu, un petit peu dégoûté. Je pense qu'on n'est jamais vraiment rentré dans le match. Je ne sais pas si les Espagnols en voulaient plus que nous ou pas, mais je trouve que devant, on a eu du mal à trouver les connexions qu'on avait tout le long de la compétition. Derrière Digne, j'ai l'impression que c'est quand même fait bien manger par Yamine Lamal. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Au milieu, on s'est fait bouffer. Enfin, honnêtement, sur tous les compartiments du jeu, j'ai l'impression qu'on était en ça par rapport à eux. Donc j'aime bien trouver des excuses, crier au score d'arbitrage, mais là aujourd'hui, alors le pénalty, je sais qu'il y a discussion, mais honnêtement, sur la globalité du match, il n'y a pas grand chose à dire. On était en dessous et faut accepter qu'on est moins bon, il faut le dire.
Je pense qu'on a perdu une bataille tactique. Ils récupéraient beaucoup de ballons, ils avaient beaucoup analysé le style de jeu de l'équipe de France, les lignes de passe, les décalages, ils avaient souvent le bon tempo, le bon rythme. Et ils nous ont bien bloqués et au final il n'y a pas eu tant d'actions de la France très dangereuses. C'est net et sans bavure quoi. Après sûr que j'aurais bien aimé que cette équipe ait tellement belle qu'elle aille plus loin, mais bon, si on gagne la troisième place à Miami samedi, c'est déjà pas mal.
Totaliser je pense pas, parce que la moitié d'effectifs sort une finale de Ligue des Champions, l'autre moitié a déjà fait une finale de Coupe du Monde, voire deux. C'était mieux organisé que nous et on n'arrivait pas à suivre. Au milieu on était à contre-temps sur tous les ballons, on arrive en retard, on savait pas qui prendre. On n'a pas réajusté non plus. Donc après loin de blâmer Dédé, il nous a apporté tellement que on peut rien dire.
I'm not afraid to die.
Mawosae.
À cette station, shérif. Il suffit de couper le courant.
Mais vous n'y pensez pas, docteur. On ne coupe pas une telle courbe démographique. C'est le plus fort taux d'audience de toute l'histoire de la radio.
Ne soyez pas si égocentrique.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Débrancher la radio. Oh nom de Dieu, mais il a perdu la tête.
Jamais que c'est pas de la gagne.
time.
Changer le cours de l'histoire, c'est d'en raconter. Mais les plumes de mon style ne troublent les cauchemars d'aucun banquier. Quand j'ai demandé des sources, on m'a dit c'est l'homme qui a vu l'ours. Qu'Adam et Ève étaient le couple Underwood, que la vérité n'est qu'une ruse de sioux. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du Théo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les ondes de plaisir de nos cerveaux. Finalement c'est peut-être les épines qui ont des roses, ou bien les monstres cachés sous les lits, qui ont peut-être peur